expliquer un peu mieux qu'est-ce qui a présidé au choix de Renault d'aborder une usine aussi importante, précisément ici.
La principale raison pour laquelle Renault a choisi cette implantation, il y a deux raisons principales. La première, c'est vraiment la conjonction de deux stratégies, celle du groupe Renault, mais aussi celle d'un pays. Rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu une stratégie extrêmement forte, construite, planifiée dans le temps, à long terme, d'industrialisation du Maroc. C'est assez étonnant et époustouflant même de voir à quel point le pays a mis en place une démarche extrêmement structurée, extrêmement volontariste d'industrialisation du pays. Il y a 6 ans, on n'était pas là, notre usine n'était pas là, mais il y avait aussi beaucoup de fournisseurs qui n'étaient pas là. C'est incroyable de voir à quel point l'industrialisation est un processus extrêmement puissant, appuyé par le royaume. Évidemment, Renault avait une stratégie d'augmenter ses capacités sur notamment la gamme Dacia, mais encore une fois, ça n'aurait pas été possible au Maroc s'il n'y avait pas eu au Maroc la stratégie du gouvernement de promouvoir cette industrialisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un certain nombre de subventions, certes, pour la mise en place du site, mais aussi beaucoup de subventions pour les fournisseurs, une infrastructure routière qui est d'excellent niveau au Maroc, un port de Tangermed que vous avez peut-être visité, je pense, ce matin ou aujourd'hui, qui est à toute proximité et vers lequel on peut envoyer nos voitures par une liaison ferroviaire directe, ce qui fait qu'en moins d'une heure, nos voitures se retrouvent depuis notre usine jusqu'à port. Donc ça a été possible et ça a été voulu à Tanger parce que Renault avait besoin d'augmenter ses capacités industrielles pour la gamme Dacia et en parallèle, le Maroc offrait une vraie stratégie, un vrai appui au développement industriel.
Et à contrario, vous nous présentez la success story, bravo. Quelles sont les difficultés ou les challenges que vous avez
La principale difficulté, c'est le fait qu'il n'y avait pas au départ de compétences ou d'expérience dans le métier automobile. Le métier automobile requiert un certain nombre de compétences pour certaines qui sont extrêmement pointues. Je peux vous prendre l'exemple de l'outillage. Vous parlez de l'emboutissage. Donc l'emboutissage, c'est la première étape du processus de fabrication où vous déroulez la teule et vous fabriquez les premières pièces de forme. Ça a l'air simple comme ça, mais ça nécessite des compétences extrêmement pointues sur les machines que vous allez voir sur les presses qui sont extrêmement puissantes et sur il y a besoin de compétences très particulières sur le métier d'outillage, un outil pour fabriquer une pièce, ça se conçoit, ça se maintient et il faut des années et des années pour former des outilleurs. Donc par exemple ça, cette expérience-là, elle n'existait absolument pas au Maroc. Donc un des challenges, ça a été pour ces compétences extrêmement critiques, extrêmement spécifiques, d'être capable de les développer. Alors on a eu au départ un apport important d'expatriés ou d'experts de nos usines françaises ou européennes qui sont venus. Au départ, ça a même été des Marocains qui sont partis sur place et puis sont revenus avec un certain d'expatriés. Mais aujourd'hui, on est arrivé au bout de 5 ans, même dans des métiers un peu critiques comme ça, à avoir 100% de Marocains aux commandes sans problème. Mais ça a pris du temps. Donc le challenge, c'est d'avoir finalement le temps et la capacité à former les personnes sur ces métiers très complexes. Je vous cite l'outillage, mais il y a des métiers très spécifiques en peinture, en qualité. Après, il y a des métiers plus généraux aussi, où on a eu et où on continue à investir. C'est l'aspect, c'est le métier de manager. Hein, le middle management ou management de premier niveau, le chef d'équipe, celui qui encadre une vingtaine d'opérateurs, c'est difficile de trouver des gens expérimentés parce que, vous avez encore une fois la moyenne d'âge, c'est 29 ans, donc vous trouvez difficilement 300 chefs d'équipe expérimentés dans la région de Tanger, capables d'opérer 20 opérateurs qui ont au moins 29 ans. Donc voilà quelques-uns des challenges.
Vous avez évoqué de la Yannick Vissouze, agglomération de Dunkerque. Vous avez évoqué le fait que vous produisiez des voitures mondiales, on parle avec des nouveaux modèles, donc vous avez des éléments de comparaison entre les différents sites. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments saillants par rapport aux coûts de production, aux coûts salariaux? Et puis le deuxième aspect, c'est que vous avez évoqué un site très important, vous utilisez 10% des possibilités, donc ça veut dire que dans la stratégie du groupe Renault-Nissan, quelles sont les perspectives par rapport à un tel site?
Alors, en effet, par rapport à votre dernier point, les usines du Maroc, l'année prochaine on va faire plus de 300 000 voitures ici, peut-être 70 à 80 000 à Casablanca. Donc globalement, maintenant le système industriel des usines du Maroc produisent plus de 10% des volumes fabriqués par Renault. Mais ce sont des usines qui fabriquent spécifiquement des voitures d'un parc Dacia, de la gamme Dacia, donc de la gamme qu'on appelle dans notre jargon interne le Global Access, c'est-à-dire les véhicules de marque Dacia. Donc ces véhicules-là ne sont pas fabriqués dans toutes les usines, ils sont fabriqués aussi en Roumanie, ça a été là qui a démarré l'histoire de Dacia, et qu'on fait fabriquer aussi en Amérique. Donc le rôle de ces usines marocaines, c'est notamment d'être un des acteurs majoritaires dans le système industriel de Renault pour la fabrication des véhicules de marque Dacia. Ça, c'est clairement la stratégie. Par rapport à la compétitivité, oui, cette usine elle est compétitive, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a une main d'œuvre qui est certes compétitive, et du coup, vous allez voir que l'usine est peu automatisée. Mais il y a encore du chemin à faire parce que les fournisseurs, globalement, ne sont pas forcément aussi compétitifs que d'autres fournisseurs. Par exemple, si vous prenez des fournisseurs en Roumanie, qui ont plus d'expérience, plus d'ancienneté, parfois les fournisseurs en Roumanie sont plus compétitifs que certains fournisseurs espagnols. Donc, c'est pas aussi automatique que ça. Hein. La main-d'œuvre est certes compétitive ici, mais ça ne vous garantit pas à 100% que vous soyez complètement compétitif. Il faut. On a encore beaucoup de sourcing, de pièces. Des pièces de nos fournisseurs qui ne sont pas fabriquées localement, et du coup ça pèse aussi dans la compétitivité. Donc c'est un processus, on cherche à augmenter l'intégration locale, à avoir plus de pièces qui proviennent du Maroc, mais ce n'est pas forcément possible tout de suite.
Vous aviez au clair, EDF, vous avez montré dans votre présentation que la manœuvre venait de l'ensemble du Maroc. Les avez-vous accompagnés, si oui, comment en matière de recherche d'un logement? Et aujourd'hui, comment vous assurez-vous du transport des salariés entre leur domicile et le site de production? Et question liée à celle-là, est-ce que l'implantation de l'usine au Maroc a permis de développer le volume des ventes et donc le recours à l'automobile de vos propres salariés?
Alors, l'accès au logement, Mme Iban, qui est la DRH du site, qui a plus l'historique que moi, c'est peut-être si on a aidé au logement, et je vais la laisser répondre. Par rapport au transport, on transporte notre personnel, c'est-à-dire que 100% des opérateurs viennent avec les bus qui sont organisés. Donc, il y a des gens qui habitent Tétouan, beaucoup de gens habitent Tanger. Donc, on a une Noria, le bus, qui arrive tous les matins et qui font le transport du personnel. Au nom des chambres d'équipe. Sur le logement, on souhaite aider. Au logement, il y a une vraie attente dans ce domaine-là. Les gens sont jeunes, mais aspirent à se marier, à se stabiliser, à acquérir un logement. Donc ça, oui, il y a une vraie attente. Je dirais qu'on démarre. Nada, tu peux peut-être préciser qu'est-ce qu'on a fait au début pour la partie logement.
Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, donc lors du recrutement, nous avons bâti toute une stratégie de recrutement qui était en fait fondée sur le fait de recruter un peu partout au niveau du Maroc. Et par contre, donc on n'a pas bâti notre stratégie sur une aide par rapport au logement. Par contre, on s'est concentré sur les avantages qu'on a donnés à ces personnes-là, des avantages sociaux. Donc avant de bâtir notre politique de recrutement, nous avons fait un benchmark. ici au niveau de la région par rapport aux avantages que chaque salarié opérateur a, et aussi alors tous les avantages qui sont donnés par les entreprises. Donc nous avons augmenté ces avantages-là, c'est-à-dire en termes de primes de logement, en primes de transport. Donc on a aidé à ce que les personnes aient accès ici au logement, mais via des agences, mais pas forcément. Donc on a aidé avec une aide quelconque. Donc c'est maintenant que ça démarre, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, c'est 7900 personnes. Donc il y a une demande d'accompagnement en termes de convention en immobilier, en convention au logement. Donc là, on vient de signer une convention dans laquelle donc, on donne une aide, on va dire un don, pour chaque personne qui achète un logement principal. Donc ça démarre. Nous avons pas mal de conventions aussi avec des banques, donc au niveau de tout le Maroc, des banques de revenus qui sont sur place. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on accompagne nos salariés au niveau de l'usine.
Excuse-moi, pour prolonger sur la question du logement, oui. Il y a un projet de ville nouvelle, donc Shrafat a proposé. Est-ce que vous êtes impliqué dans ce projet et quelles sont vos attentes par rapport à ce projet?
Alors ce projet de Shrafat, donc ça a daté, on va dire, on parlait de ce projet-là depuis le démarrage du projet, en 2011. Donc il y avait une forte attente par rapport à ce projet-là, notamment de Rony. Ce qu'on disait, c'est là, bien sûr, la solution idéale pour nous. Donc il y a la proximité, il y a des logements sociaux qui vont être à côté, etc. Donc il y avait un entrepreneur qui était mandaté pour construire la ville, mais ça a pris beaucoup de retard. Donc on a même fait une convention avec Dial Mansour, mais finalement ça n'a pas vu le jour. Donc ce qui fait, on avait fait la communication en interne, donc ça a créé plus de frustration qu'autre parce que le projet n'a pas vu le jour. Donc aujourd'hui, ce projet-là de la ville de Shrafat est relancé. Donc on a participé, ça fait pas longtemps, avec le directeur général au projet de manière globale. Donc c'est prévu à partir de 2019, à partir de 2018, donc il y aura des logements sur place. Donc certainement, on va avoir des conventions dans ce sens. Et puis, oui, il y a la région de Mulusa. Donc on est en contact aussi avec un grand promoteur immobilier qui va faire aussi des logements économiques juste à côté. Parce que la problématique du logement, ça touche essentiellement, donc on va dire, la catégorie opérateur, avec la moyenne des salaires, etc., qui n'ont pas les moyens pour contracter un crédit avec une mensualité importante. Donc toutes nos conventions qu'on est en train de discuter vont dans ce sens-là.
On aide les opérateurs. Après, on intervient aussi pour essayer de faire en sorte que les projets répondent à leurs attentes. Shrafat, ça a mis du temps à démarrer, parce qu'au départ, c'était juste un projet logement. Sauf que les personnes qui veulent s'installer là, elles veulent qu'il y ait une école, elles veulent qu'il y ait un médecin, elles veulent qu'il y ait une mosquée, qu'ils puissent vivre avec tout ce qui est nécessaire pour leur vie courante. Donc en effet, pour Shrafat, on a été sollicité pour donner notre avis, pour aider à bâtir ce cahier des charges. Oui. Allez-y.
Notamment par rapport à la place des femmes dans l'usine, vous disiez qu'il y a une volonté, on voit bien, il y a 15% des femmes. Et quelles sont justement les problématiques rencontrées par ces femmes au Maroc pour les résistances probables à travailler à l'usine? Vous parliez effectivement d'infrastructures, on voit bien que c'est important au niveau des écoles, mais après, pourquoi il y a une résistance?
Je ne dirais pas qu'il y a une... Je ne sais pas s'il y a une résistance.
Non, il
n'y a pas une résistance. Il y a plus de candidats hommes que femmes pour venir travailler. Après, notre job à nous, c'est aussi de faire en sorte que les postes de travail soient bien adaptés. Mais vous allez voir que sur la ligne, il y a des femmes qui travaillent et ça pose pas de problème. Il n'y a pas de réticence ni de notre part ni en interne. C'est plus un mouvement qu'il faut accompagner. Aujourd'hui au Maroc, une proportion plus importante d'hommes qui travaillent que de femmes.
Il n'y a aucune résistance par rapport aux femmes de travailler dans l'industrie. Donc on est dans une industrie lourde. Donc on fait avant de recruter, donc on doit absolument avoir la cartographie des postes verts. Quand je dis vert, c'est par rapport à l'ergonomie. Donc vous allez voir une tôlerie qui est... Il y a des pinces, etc. Ça demande quand même de l'effort physique. Donc on ne peut pas intégrer féminiser pour féminiser. Donc c'est assez bien étudié pour pouvoir bien intégrer et attirer ces femmes-là pour qu'elles puissent travailler. Donc vous allez voir une population de femmes qui est assez importante au niveau du montage, au niveau de la peinture. Après, il y a d'autres secteurs. c'est pas possible qu'on mette des femmes dans tous les postes. Donc bien sûr, on prend en considération l'aspect ergonomie par rapport à la population féminine avant de féminiser. Donc au niveau du Maroc et surtout dans la région nord, après peut-être M. Sader peut en dire plus que moi, si on prend le domaine du câblage, donc c'est à 80% c'est des femmes. Donc au contraire, il n'y a aucun problème pour que la femme travaille et qu'il donne au niveau d'entreprise. Donc nous, pour faciliter encore plus la féminisation au niveau de l'usine, donc nous avons un grand projet phare cette année, c'est de mettre en place une crèche ici. Donc nous avons plus de 1000 femmes au niveau de l'usine. Donc 1000 femmes, donc ils se marient, hein. Nous avons une population qui a 29 ans, donc ils se marient entre eux. Donc il y a des bébés tout le temps. Donc ce qui fait, pour répondre, on va dire, aux besoins, parce qu'il y a un besoin légal par rapport à l'allaitement, pour répondre à besoins sociaux aussi par rapport à ça, donc on va créer une crèche ici au niveau de l'usine. Et ça, on va être les premiers à le faire. Donc vraiment pour encourager à ce que les femmes travaillent plus, qu'ils produisent plus, qu'ils évoluent au niveau de la structure, qu'ils ne restent pas opératrices. On travaille aussi sur le développement de ces femmes à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, nous avons pas mal de population cadre qui est féminisée à presque 26%. Donc nous avons une population des opérateurs qui est féminisée à 18%. Mais par contre, donc, on a aussi la volonté de bien féminiser la partie middle management. Donc nous avons un opérateur, nous avons un opérateur homme et un opérateur, une opératrice femme. Donc pas forcément on va mettre la femme candidate pour occuper le poste de middle management. Donc c'est des challenges que nous avons pour développer plus la diversité au niveau du groupe et au niveau de Renault, notamment particulier.
Merci.